les diplomaties européennes prennent contact avec l'organisation HTS au pouvoir en Syrie. Analyse de cet état de fait avec Alberto Toscano. Il est journaliste et spécialiste surtout des affaires européennes. Il répond aux questions de Lucie Gilson.
Bonjour Alberto Toscano.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et spécialiste des affaires européennes. Alors, après quelques jours de réflexion, la nouvelle chef de la diplomatie, Kaja Kallas, a indiqué ce matin que l'Union européenne enverrait un émissaire pour explorer les possibilités de coopération avec les nouveaux dirigeants de la Syrie. Oui. Mais il y a un hic. L'organisation, donc HTS ou HTC, est toujours désignée comme organisation terroriste par l'ONU et par la plupart des diplomaties occidentales. Alors ma première question, est-ce que cela veut dire que cette organisation devient maintenant un interlocuteur considéré comme légitime pour représenter la Syrie de demain ?
Mais je crois que le problème n'est pas tellement au point où on est d'étudier, de s'interroger sur la question de légitime ou pas légitime. Le problème est de comprendre le fait que cette organisation est au pouvoir. Et donc, étant au pouvoir, il faut comprendre ce qu'ils veulent. Il faut quelque part composer avec eux, dont le dialogue est de toute façon indispensable. Et aujourd'hui, on voit que des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, les pays européens, les pays du monde entier essaye de comprendre ce qui se passe en Syrie.
Alors, Kaja Kallas, elle s'est montrée quand même tout de même assez ferme à propos des dirigeants de la Syrie. Elle a dit qu'elle souhaitait que les mots soient suivis d'actes. Comment est-ce qu'elle va pouvoir, dans les prochains mois, asseoir en fait son rôle dans cette lignée avec la Syrie ?
Ben, le rôle de l'Union européenne... Et tout d'abord un rôle de dialogue, et ce dialogue continuera ensuite. Il y a deux éléments fondamentaux. Le premier regarde les sanctions, des sanctions qui étaient déjà un acte contre le régime président syrien, des sanctions contre les organisations terroristes, parce que cette organisation au pouvoir, aujourd'hui, depuis quelques jours, à Damas, est considéré encore une organisation terroriste et dont il y a cet élément de sanctions qui se pose. Enfin, il y a un problème de vision globale de la crise syrienne. La crise syrienne a été la conséquence de ce qui s'est passé au Liban, de ce qui s'est passé beaucoup plus loin en Ukraine, qui a affaibli la Russie, de ce qui s'est passé par rapport à l'Iran, de ce qui s'est passé aussi en Irak, Yémen, et évidemment à Gaza. Et c'est le contexte général a changé. L'Union européenne doit se situer dans ce contexte général et imaginer une recomposition de nouveaux équilibres au Moyen-Orient. Et ça va avoir lieu au moment où les États-Unis changeront de locataire à la Maison-Blanche. Donc, il est parfaitement normal que la diplomatie européenne s'interroge vis-à-vis de cette perspective de rééquilibrage et de recomposition d'un dialogue et de nouveaux rapports de force au Moyen-Orient. Là, il y a aussi un point fondamental qui se pose par rapport au respect et à la reconnaissance d'Israël de la part de ces nouvelles autorités syriennes qui probablement ne reconnaîtront pas tout de suite Israël, mais qui si elles seront influencées par la Turquie, comme elles sont déjà, mais aussi par l'Arabie Saoudite, et aussi elles pourraient se situer dans une perspective qui est l'héritage des accords d'Abraham, dans lesquels l'Arabie Saoudite était partie prenante indirectement et aussi directement. Enfin, dans cette nouvelle perspective, le rôle d'Israël et la capacité d'Israël d'être protagoniste du nouveau dialogue international se poseront de façon claire et nette.
Oui, et d'ailleurs, dans le courant de l'après-midi, on nous a rapporté des informations selon lesquelles un des leaders de l'opposition syrienne espérait la paix malgré, en condamnant pour lui ce qu'il qualifie d'erreur historique d'Israël dans la zone tampon du plateau du Golan. Est-ce que vous y croyez à cette main tendue de l'opposition syrienne envers Israël?
Tout est possible. Ça ne dépend pas directement de l'opposition syrienne ou de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir à Damas. Ça dépend des puissances qui sont derrière HTS. Mmh. La Turquie en premier lieu, mais aussi une possibilité de l'Arabie Saoudite d'avoir un rôle plus important. Quand à la présence syrienne militaire dans de nouveaux territoire au-delà de la vieille ligne de démarcation, elle s'explique par les besoins d'Israël de trouver, de mettre les bases de sa future sécurité. Donc, les Israéliens ont été les premiers à dire que cette présence militaire n'a pas vocation d'être définitive. Mais il s'agit d'un élément ultérieur qui marque le besoin de dialogue pour chercher de nouveaux équilibres dans la future région, dans le Moyen-Orient de l'avenir.
Aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur le fait que la Syrie ne pourra pas se reconstruire toute seule, qu'elle aura massivement besoin de l'appui occidental, notamment en termes d'aide humanitaire. Quel rôle l'Union européenne en particulier peut jouer dans cette reconstruction syrienne?
Le rôle de l'Union européenne a toujours été le rôle de quelqu'un qui payait et payait beaucoup. Donc, s'il s'agit d'une aide à la reconstruction syrienne, cette aide en termes économiques peut être tout à fait considérable. Encore faut-il savoir que l'Union européenne doit chercher une politique unie vis-à-vis du Moyen-Orient, elle doit parler d'une seule voix, et jamais comme aujourd'hui, l'Union européenne a été loin d'atteindre ce but de parler d'une seule voix. Le comportement absurde du gouvernement irlandais, par exemple, et la polémique actuelle au sujet de l'opposition farouche de l'Irlande à l'actuelle politique israélienne, qui a amené d'ailleurs à la fermeture de l'ambassade israélienne à Dublin, est la démonstration de comme chaque État pense pouvoir agir de façon tout à fait de jouer perso sur dans le contexte du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, l'Union européenne manque cruellement de la possibilité de parler d'une seule voix. Et le vrai problème pour l'Union européenne est de se mettre d'accord à son intérieur, bien plus que de dialoguer. Si le dialogue est un dialogue où il n'y a pas une voie européenne, mais c'est un dialogue où chaque pays a une politique étrangère différente, alors l'Union européenne n'a aucune force d'être protagoniste du dialogue au Moyen-Orient.
Et Kaja Kallas, c'est son premier défi diplomatique depuis qu'elle est en poste il y a un peu moins d'un mois maintenant. Est-ce que vous pensez qu'elle sera à la hauteur de la tâche, sachant qu'elle vient justement des Pays-Baltes qui ont l'habitude de prendre une position ferme face à la Russie qui est quand même le premier allié de la Syrie aujourd'hui?
La priorité de Kaja Kallas est, par rapport à la Russie, comme vous venez de dire, la priorité de Kaja Kallas est le dialogue avec l'OTAN, la priorité de Kaja Kallas est d'aborder avec fermeté la question ukrainienne. Donc, la Syrie n'est certainement la priorité des priorités de Kaja Kallas. Encore faut-il comprendre la leçon qu'on vient de voir sous nos yeux. Et cette leçon est l'intercommunicabilité entre les crises, le lien entre les différentes crises internationales d'aujourd'hui. Il y a eu un lien entre la situation en Ukraine et le fait que la Russie s'est affaiblie au Moyen-Orient pour concentrer ses forces en Ukraine. Donc il y a un lien entre la crise en Ukraine et la crise au Moyen-Orient. Il y a un lien entre l'Ukraine et la Syrie. Donc aujourd'hui, l'Union européenne et Kaja Kallas ne peuvent pas imaginer un engagement jusqu'au bout sur un terrain et considérer que l'engagement sur l'autre terrain, dans le cas spécifique le Moyen-Orient, est secondaire par rapport au principal. Tout est lié, tout est fondamental, et l'Union européenne peut agir avec sens de responsabilité et avec efficacité seulement si elle arrive à parler d'une seule voix. Aujourd'hui, la seule voix n'est pas celle de Kyriakides. Il y a des voies différentes parce que les États n'arrivent pas à déléguer vraiment la politique étrangère à la Commission européenne, dont le premier pari de Kyriakides est de s'imposer en tant que représentant de la Commission européenne, de s'imposer en tant que personnalité fondamentale capable d'interpréter et de donner une seule voix à la politique étrangère européenne en tant que telle. Et Kyriakides doit encore faire ses preuves et démontrer ce qu'elle est capable de faire pour mettre de l'ordre entre une orchestre à plusieurs États qui joue chacun une partition différente.
Eh bien, Alberto Toscano, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste des affaires européennes, grand habitué de nos antennes. Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir et bonne soirée, au revoir.